Bien, chers amis, chères assemblées, tout d'abord vous remercier pour l'invitation à venir partager un peu de notre vision, nos projets pour la mission. Et je veux vous remercier, c'est Christian qui avait lancé l'invitation même avant qu'on soit revenu d'Afrique. Donc pour un petit rappel, donc Martine et moi avons été envoyés par le comité de mission déjà depuis 86, un petit peu après nos années. Et comme donc tous les deux traducteurs de la Bible, notre vision, notre vocation est dans le travail de la traduction de la Bible. C'est ce à quoi nous avons travaillé pendant des années. Et donc le dernier séjour que nous avons passé au Burkina, donc de 2010 à 2013, nous travaillons toujours dans le domaine de la traduction de la Bible, mais nous vous expliquerons un peu cet après-midi un peu ce qui a changé dans nos vies, dans nos engagements. Donc pour l'instant, donc, je voudrais partager quelques pensées sur le message biblique. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais une des questions que je trouve les plus intéressantes que la Bible nous pose aujourd'hui, c'est la question de notre identité. Alors, quand on voit le mal qu'a la société civile, et en particulier l'État français, à gérer cette question, les problématiques des identités religieuses qui composent l'État français, on se dit que finalement c'est pas une question à prendre trop à la légère, que cette question d'identité. Et justement, la Bible nous parle de ce qui fait notre identité, d'une part en tant qu'individu, c'est-à-dire que la Bible nous donne des éléments pour répondre à la question qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qui fait un chrétien. Merci Rachel. Mais je pense qu'elle nous renseigne aussi et surtout sur ce qui fait l'identité du peuple de Dieu. Et je voudrais ce matin vous inviter à méditer sur cette question, la question de l'identité du peuple de Dieu, au travers d'un petit aperçu de cette vision grandiose que l'apôtre Jean avait reçue sur l'île de Patmos. Le dernier livre de la Bible nous montre Jésus tel qu'il est, dans sa gloire et sa souveraineté. Je trouve que les images contenues dans le livre de l'Apocalypse sont importantes pour ma foi, parce qu'elles nourrissent mon espérance, comme je pense qu'elles devaient nourrir l'espérance des premiers lecteurs de ce livre, de l'Apocalypse. Alors je suis d'accord avec vous que l'Apocalypse est un livre difficile à lire, mais pour nous, traducteurs de la Bible, ce qu'on dit, c'est que l'Apocalypse est un des livres les plus faciles à traduire. Pareil. Donc c'est moi, j'ai pas eu d'expérience là-dedans, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Vous êtes d'accord avec moi, c'est un livre qui est rempli de symboles, de métaphores, et c'est ça ce qui le rend un peu rébarbatif. Mais je voudrais ce matin donc partager avec vous deux images qui se trouvent à la fin du livre, au chapitre 22 de l'Apocalypse. Alors, si vous avez une idée un peu du déroulement de la vision de Jean à Patmos, c'est une vision qui se déroule petit à petit, un peu de façon un peu cyclique même, et mais c'est une vision qui se termine un peu en apothéose. Le chapitre 20 nous révèle que le jugement dernier appartient à Dieu. Au chapitre 21, Dieu crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et c'est à ce moment-là que Jean est quelque part sur une montagne, je crois, et puis il est avec un ange, et puis il voit descendre des cieux la nouvelle Jérusalem. Et l'ange qui est à côté de lui, il lui dit, voilà l'épouse de l'agneau. Bah, il minait un peu donc, une ville, en fait, un gros cube. et l'ange qui dit, voilà l'épouse de l'agneau. Donc, on est en plein dans les symboles, hein, dans les images. Et on a, c'est pas évident de s'approprier ces images. Donc allons un peu poursuivre. Le premier livre de la Bible nous avait dit que l'humanité avait commencé dans un jardin, et le dernier livre de la Bible nous dit que la nouvelle humanité se voit offrir un nouveau commencement dans une ville. Et quand on compare ces deux lieux de commencement, on trouve justement beaucoup de ressemblances. Et ils ont en particulier deux choses en commun que j'aimerais que nous considérions ensemble ce matin. Donc ouvrons nos Bibles au livre de l'Apocalypse, donc c'est la dernière page de la Bible, chapitre 22, les versets 1 à 3, les trois premiers versets d'Apocalypse 22. Donc il dit « Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. » Dans cette ville, on trouve un fleuve de la vie, comme en Éden, et aussi un arbre de vie, aussi comme en Éden. Un fleuve et un arbre au milieu de cette ville. Et au verset 3, Jean donne une précision qui a son importance, c'est qu'en ce lieu, il n'y aura plus de malédiction. Et on peut se poser... Je trouvais ça un peu étonnant que cette ville qui vient juste de descendre de chez Dieu, on nous dise qu'il n'y aura plus de malédiction. Évidemment, puisque ça vient de chez Dieu, ça semble aller de soi. Pourtant, ça ne va pas de soi dans la mentalité des Juifs, parce que dans la Bible, autant l'arbre que le fleuve sont tous les deux des symboles ambigus pour le peuple de Dieu. L'arbre d'Éden donnait la vie, mais un autre arbre en Éden avait été associé aux tristes événements de la chute, un arbre de triste mémoire. Les arbres dans l'Ancien Testament sont les repères des oiseaux qui sont souvent représentés négativement par les prophètes. Les arbres, dans les visions, dans les rêves, se font souvent abattre. Mais là, au verset 3, Jean précise, il n'y aura plus de malédiction. Et c'est la même chose pour le fleuve. L'histoire du peuple de Dieu est liée à plusieurs grands fleuves. Souvenez-vous, Abraham quitte un fleuve, l'Euphrate, en Ur de Chaldée, puis après en Haran. Et ses descendants se retrouve quelques siècles plus tard au bord d'un autre fleuve, le Nil, souvenez-vous, le Nil dans lequel on devait jeter tous les garçons premiers-nés des Hébreux, un lieu de mort. Plusieurs siècles plus tard, le peuple de Dieu est déporté près du premier fleuve, à Babylone, et le psaume 137 nous dit que c'était un lieu de tristesse. C'est pourquoi donc que je dis que les deux symboles sont ambigus, parce qu'ils sont chargés de sens contradictoires. C'est pourquoi je pense aussi que Jean précise au verset 3 qu'il n'y aura plus de malédiction. Justement, parce que les arbres et les fleuves ont souvent été des lieux de malédiction pour le peuple de Dieu. Donc la nouvelle Jérusalem est identifiée au chapitre 21, comme l'épouse de l'agneau, on doit accepter cela, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc c'est l'épouse de l'agneau, c'est-à-dire le peuple de Dieu, véritablement. Et au centre de cette ville, c'est-à-dire participant à son identité, se trouvent un fleuve et un arbre. Si je voudrais ce matin vous proposer de prendre ces deux symboles de l'Apocalypse et de les appliquer au peuple de Dieu. Ce n'est pas une idée originale qui est sortie de ma tête, c'est une idée que j'ai empruntée à un théologien britannique, Thomas Wright, qui m'a inspiré cette comparaison du peuple de Dieu comme un fleuve et le peuple de Dieu comme un arbre. Alors au Burkina, on discutait hier avec Christian et Rachel, effectivement on n'a pas de grand fleuve dans ce pays où nous travaillons. Il y a plusieurs fleuves qui prennent leur source à l'ouest du pays, et c'est vrai que les populations riveraines de ces deux fleuves sont réjouies par ces masses d'eau qui coulent au milieu de la savane. Mais ils deviennent de vrais grands fleuves seulement lorsqu'ils passent en Côte d'Ivoire ou au Ghana, où ils se jettent dans l'Atlantique. Alors il existe des fleuves qui sont tellement larges qui font plus penser à des lacs ou à des mers qu'à des fleuves. C'est le cas de la Volta quand elle est justement au Ghana, où ça devient un immense lac, quelque chose d'assez gigantesque. Et ce que je veux dire, c'est qu'une telle masse d'eau est le résultat de l'addition de dizaines, de centaines, voire de milliers d'affluents qui apportent chacun leur petite quantité d'eau. Si vous prenez le Rhin, lorsqu'il arrive à son embouchure en Hollande, ça devient un immense delta. Mais cet immense delta, cette immense quantité d'eau, contient aussi de l'eau des torrents des Vosges. Donc, tout à l'heure, on a vu un petit torrent qui coulait là. Mais voilà cette petite eau qui court dans les plaines et dans les prés et dans les montagnes, va aussi rejoindre cette immense masse à l'embouchure du Rhin. Le peuple de Dieu est comme un fleuve. Il est constitué de dizaines, de centaines, de milliers de peuples qui viennent apporter leur eau à cette grande masse. Si on considère les peuples du Burkina comme des ruisseaux, on peut dire que certains de ces peuples n'ont pas encore trouvé le chemin vers le grand fleuve de Dieu. Ils ont encore besoin qu'on creuse des canaux pour que leurs eaux viennent se mélanger à celles du grand fleuve. Et les chrétiens burkinabés, comme les collaborateurs avec lesquels nous avons travaillé pendant des années à la traduction de la parole de Dieu dans leur langue, qui travaillent à la traduction de la Bible dans leur langue, donc participent à leur manière à cette grande œuvre de traduction. Si on considère un arbre dans ce qu'il a de visible, on a ici une image opposée à celle du fleuve. On a un tronc qui sort de la terre et qui porte des branches qui à leur tour se divisent en plus petites branches et encore d'autres branches jusqu'à arriver à des feuilles et des fruits. Et toutes ces unités, toutes ces branches, et ces feuilles et ces fruits tirent tous leur nourriture du même tronc. Alors c'est pareil, au Burkina, on n'a pas énormément de grands arbres, mais il y en a quelques-uns, et c'est des grands arbres qui font extrêmement plaisir à voir, et surtout à se mettre dessous pour profiter de leur ombre dans la grande chaleur du Sahel. Il y a un grand arbre comme ça qui s'appelle le caïcédra. C'est un peu l'équivalent de nos chênes ici en Europe. Et c'est des arbres qui font énormément plaisir à rencontrer, à croiser. Alors l'image du fleuve me parle de l'immensité et de la diversité du peuple de Dieu. Et celle de tels arbres comme les caïcédras ou les chênes me rappelle que toute cette immensité, cette variété est nourrie par un seul et même tronc. Un seul Sauveur et Seigneur pour tous. Voilà, donc malgré l'ambiguïté du sens biblique de ces deux images, je voudrais vous proposer ce matin que nous en nourrissions notre espérance. Parce que Dieu utilise des symboles, toutes sortes de symboles, quelquefois même des symboles de malédiction, de malheur, de condamnation. Prenez la croix, par exemple, pour les retourner et en faire des symboles de bénédiction, de bonheur et de restauration. Je crois que nous avons besoin de nous représenter le peuple de Dieu comme un arbre porté par un tronc puissant, unique et nourricier. C'est Jésus qui nous porte. C'est lui qui nous nourrit et qui restaure, renouvelle nos forces. Il existe au Burkina, dans tout l'ouest de l'Afrique, un arbre dans le Sahel auquel on peut comparer le peuple de Dieu soutenu par un tronc étonnant comme Jésus. C'est un arbre qui s'appelle le Federbia albida, c'est son nom scientifique. Les Bambara l'appellent balançant. C'est un arbre non conformiste, on va dire. Il fait tout à l'envers des autres arbres. C'est un arbre qui perd ses feuilles pendant la saison des pluies et qui reverdit pendant la saison sèche. Et le peuple de Dieu, celui qui reste attaché au tronc, à Jésus, celui qui ne se conforme pas au monde, mais à son maître, le peuple de Dieu trouve dans sa relation avec Jésus les ressources dont il a besoin, en particulier dans les moments de grande détresse, comme la saison sèche dans le Sahel. Mais pas seulement, parce qu'il y a plus que cela dans la vision de Jean. Jean nous montre un arbre qui donne 12 récoltes, dont les feuilles servent à la guérison des nations. Le peuple de Dieu, dans sa dépendance au tronc, ne se conforme pas à ce monde de destruction et de mépris des plus faibles, mais il œuvre à la guérison de ceux qui sont blessés. Et profite de ce qu'il y a des jeunes ici qui étaient à Proclame l'été dernier pour rappeler cet événement qui s'est passé pendant cet été où. Donc ils ont donné un spectacle sur la place d'un village où l'année précédente, donc le fils, un des fils du village, vous avez dû entendre cette histoire, donc avait été assassiné. Et comment au travers de ce spectacle, donc les personnes de ce village ont été consolées et restaurées. Le peuple de Dieu est celui justement qui œuvre à la guérison de ceux qui sont blessés. Nous avons besoin de nous représenter le peuple de Dieu comme un fleuve qui passe et qui apporte la vie partout où il passe. Le prophète Ézéchiel avait déjà eu une vision d'un fleuve qui sort aussi du temple et qui s'écoule vers l'est, c'est-à-dire l'est de Jérusalem, c'est quoi? C'est la mer Morte. Et ce fleuve qui sortait du temple, qui coulait vers la mer Morte, avait l'effet d'en assainir les eaux amères, les eaux saumâtres. La mer Morte était la mer salée. Et donc cette eau qui sortait du temple avait cet effet d'assainir l'eau de la mer Morte et de la faire revivre. Trouvez cette image au chapitre 47 du prophète Ézéchiel. Et permettez-moi de voir là une autre implication missiologique à cette image. Ce grand fleuve, nous avons dit qu'il vient de milliers d'affluents, dont chacun a drainé sa part d'alluvion. Si vous prenez le réseau hydrographique de l'Afrique, c'est la terre de l'Afrique centrale qui est à l'origine de la richesse de la basse vallée du Nil. C'est dans leur territoire que ces alluvions ont été tirées et drainées jusqu'à la basse vallée du fleuve. Et c'est la même chose avec le peuple de Dieu. La traduction de la Bible qu'on fait aujourd'hui pour le peuple Zung, là où nous avons travaillé, va nourrir le peuple de Dieu de cette région-là. Mais il faut bien être conscient d'une réalité plus globale, c'est que le développement de la spiritualité des peuples isolés au Burkina aura tôt ou tard des retombées sur le reste du peuple de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes un fleuve qui traverse un immense territoire et que chaque affluent apporte avec lui ses propres alluvions. Je vais vous raconter encore une autre anecdote. Une collègue qui était conseillère en traduction avait l'habitude de noter comment les langues du Burkina Faso exprimaient les réalités de la foi biblique. Elle avait l'habitude de faire ça avec toutes les équipes avec lesquelles elle vérifiait les traductions. Un jour, qu'on était en train de vérifier avec elle, elle nous a dit qu'elle avait partagé avec une amie russe comment les Dzong parlent de la repentance et de la conversion. Et cette amie russe avait été tellement touchée par l'image utilisée dans la traduction en Dzongo qu'elle avait partagé ça avec les responsables de son église. Et elle nous disait que les gens de cette région avaient été tellement éclairés qu'à une conférence chrétienne, un groupe avait présenté une sorte de théâtre, un sketch, dans lequel ils avaient mimé les effets de la repentance dans le pardon en s'inspirant de l'expression en Dzongo. Et donc, quand on avait entendu ça, on s'est dit « Waouh !» Donc, la traduction en Dzongo avait eu un impact jusque dans les plaines de Sibérie. Donc, vous voyez que la globalisation, c'est pas seulement Internet ou McDonald's, c'est aussi la spiritualité des peuples africains qui peut nous aider ici en Occident ou en Orient à comprendre les implications des paroles de Jésus. Alors la sagesse de Jésus est partie d'un territoire fort lointain, de Samoroiri, et pourtant c'est d'elle que le peuple Dzong aujourd'hui se nourrit. Mais le voyage spirituel n'est pas terminé. Et je peux parier aujourd'hui que la spiritualité des chrétiens du Burkina Faso risque d'avoir des répercussions sur la spiritualité de peuples lointains, de peuples d'Europe. Alors Jésus nous avait prévenu qu'avec les paraboles qu'il avait données à ses disciples, que la semence mettrait du temps à pousser, qu'on pourrait même la confondre avec les autres plantes qui poussent. Notre expérience du peuple de Dieu, telle qu'on la vit ici, n'a donc rien d'inattendu, que ce soit ici en France ou même en Afrique. Rappelons-nous juste que c'est Jésus qui nous porte tous. Notre appel est de porter du fruit. Si nous sommes reliés au tronc, au cep, nous pouvons gager que le non-conformisme de Jésus apparaisse aussi dans nos vies en tant que membres du peuple de Dieu.